RMC Buzzer Time.
Allez, votre dose hebdomadaire de basket, une heure, de 21h à 22h, Stephen Brun, Fred Weiss, David Cosette, le trio majeur. Et là, bonsoir messieurs.
Trio magique même.
Trio magique, comme tu veux.
Salut Arnaud.
La Dream Team.
Bonsoir.
Le week-end s'est bien passé.
Le week-end s'est bien passé, la GPI était de retour, donc on est tous très contents.
On a été sevrés
de basket.
Oui.
Elle nous manque quand même cette GPI, elle n'est pas là.
Ah, quand tu commandes des Nantes à Limoges, parfois elle nous manque pas, mais parfois elle nous manque.
Mais quand tu fais du Strasbourg, le manque beaucoup plus.
Voilà, David.
Pas mieux. Non, c'était pas terrible, ce qu'on a vu hier, pour le coup, alors qu'on attendait un gros match entre deux équipes qui se battaient pour la troisième place. C'est parfois le cas quand, après une trêve, tout le monde n'a pas ses repères.
On va parler d'NBA. Il y aura de la JPL, ne vous inquiétez pas, mais à quoi joue la NBA? Des scores fleuves. 135-121 hier encore entre Washington et Minnesota. Des matchs sans défense, des arbitres permissifs. Où est l'intérêt? On va en débattre avec notre invité Yann Cazeville, rédacteur en chef du mensuel Basket. Le mensuel qui vient de sortir un numéro avec ce titre NBA. Tout pour le show, zéro défense. Est-ce encore du basket? N'hésitez pas, il y a un sondage Twitter. Vous êtes déjà nombreux à voter. La NBA, est-ce encore du basket? Oui, à 71%. N'hésitez pas à aller voter. Hashtag RMC Live ou encore le 32-16 pour réagir. Le 1 contre 1 tout à l'heure, ça vous l'attendez messieurs. L'actualité du basket français sous forme de quiz. Fred Weiss va-t-il réussir le three-peat? 3 victoires de suite, il est à 2. La réponse tout à l'heure. Déjà, il y aura des équipes, Stephen et David contre Yann qui restera avec nous et Fred. Enfin, locker room, les coulisses de la JP Elite. Est-ce qu'Alexis Agençain va quitter l'ASVEL? Une altercation verbale s'est produite entre l'ancien pivot de l'équipe de France et son coach à la mi-temps du match ASVEL-Le Portel. Vendredi dernier, les infos de Cyril Méjean en fin d'émission. Enfin, le jeu ce soir grâce à Buzzer Time. Vous pouvez remporter des places pour la 22e journée de JP Elite pour gagner vos entrées pour Nanterre-Levallois samedi et Le Mans-Villeurbanne. De belles affiches, hein, messieurs, hein.
Oui, c'est deux belles affiches. C'est juste embêtant si t'habites à Nice, quoi.
Ouais. Mais rendez-vous immédiatement sur le compte Twitter de RMC Sport. Buzzer. Avant de parler NBA, il y a des lives et notamment l'équipe de France féminine qui joue contre l'Uruguay à Tours. Pierre-Yves Leroux est sur place. Bonsoir Pierre-Yves.
Salut Arnaud, bonsoir à tous. Bienvenue au stade de la Vallée du Cher. 11 000 spectateurs en folie alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Tout le monde n'a pas pu trouver une place. Tout le monde avait envie de voir cette équipe de France qui a perdu face à l'Allemagne 1-0 à Laval jeudi après 8 victoires consécutives. Donc il faut réagir pour les filles de Corinne Diacre ce soir à 95 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde le 7 juin. Encore quelques petits tests pour la sélectionneuse. Le coup d'envoi qui est donné à l'instant, mais pour le suspense il faudra s'en repasser parce que l'Uruguay n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde et figure à la 74e place du classement international. Il y a 5 changements dans le jeu du côté de l'équipe de France par rapport à ce match et cette défaite face à l'Allemagne. Le coup d'envoi a été donné, une minute de jeu, 0-0 à Tours.
Et Laure Lepailleur de la Dream Team RMC Sport est avec nous. Bonsoir Laure.
Bonsoir à tous.
Qu'attendre de ce match? Une réaction après le match contre l'Allemagne et cette défaite 1-0?
Oui, une réaction, mais c'est surtout, je pense qu'il y a eu des changements. Il y a encore des places à gagner pour la liste des 23, la liste finale qui sortira au mois de mai. Donc il y a des joueuses qui doivent saisir l'opportunité parce que clairement sur le match précédent, il y a aussi des joueuses qui sont passées à côté. Donc voilà, des places encore, je pense, à gagner ce soir.
Allez, ça vient de partir. Merci Pierre-Yves, merci Laure. Il y a toujours du football cette fois-ci. C'est les hommes, la Ligue 2, la 27e journée. Le Havre Lens, Christophe Lécuyer.
Salut Arnaud, bonsoir à tous. 18 minutes de jeu ici au stade Océane dans ce match décalé. C'est vrai, de la 27e journée de Ligue 2, toujours pas de but. Donc avec des Havrais qui n'y arrivent plus dans ce championnat. Plus de succès depuis un mois et demi maintenant. Pire, les Havrais se sont même fait sortir de la Coupe de France. Une élimination peu glorieuse à Vitré. Suffisant pour voir le président Havrais, Vincent Volpe, taper du poids sur la table et indiquer clairement que ne pas jouer les playoffs en fin de saison serait un vrai échec. Comprenez, cela serait sûrement fatal. Évidemment, à l'entraîneur Oswald Tanchot, qui a clairement la pression sur les épaules, il lui faut réaliser un bon résultat ce soir face au leader Messin. Tranquille, leader que le FC Metz, 8 points d'avance sur le troisième et qui reste sur 2 succès de rang. Légère domination à Lorraine dans cette entame de match ici à Océane. 19 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Le Havre et Metz.
Merci Christophe, à tout à l'heure. Et puis il y a de la JP Elite, la 21e journée, Monaco Cholet, et c'est Monaco qui mène pour la première de Sacha Obradovic, le nouveau coach, 19-17 face à Cholet. Allez, tout de suite, on parle d'NBA.
RMC Buzzer Time. Buzzer Time.
Oh, blocked by James. LeBron James with a rejection.
Les news NBA.
L'NBA, est-ce encore du basket? On accueille notre invité Yann Cazeville, rédacteur en chef de la revue mensuelle Basket. Bonsoir Yann.
Bonjour Arnaud.
Vous avez sorti un numéro, voilà, NBA, tout pour le show, zéro en défense, est-ce encore du basket, avec notamment James Harden en couverture, qui est un petit peu le symbole de ce que renvoie comme image et comme jeu la NBA. Alors c'est vrai que le constat est sévère et pas nouveau, la saison régulière de NBA propose un basket offensif, mais aujourd'hui peut-être trop offensif, des scores régulièrement au-dessus à des 120 points, des marchés non sifflés, un jeu qui se base de plus en plus, voire exclusivement sur le tir à 3 points, des équipes qui tankent, qui veulent perdre le plus de matchs possible afin de s'assurer le premier choix de draft en juin prochain. La Grande Ligue reste toujours la Grande Ligue avec les meilleurs joueurs du monde, mais messieurs, est-ce que le modèle n'est pas poussé à l'extrême cette saison, Stephen?
Alors, pour répondre à ta question, je dirais que oui, ça reste du basket, et c'est l'évolution du jeu qui veut ça. Pour moi, les joueurs sont trop forts maintenant, les joueurs prennent le pas sur les défenses. Hier, j'ai regardé, je me suis fait un petit Houston-Boston. On parle beaucoup de James Harden qui stigmatise un petit peu cette nouvelle tendance, mais j'ai vu des mecs à Boston défendre, notamment Marcus Smart, défendre, comme j'ai rarement vu cette saison, sur James Harden, mais James Harden, il met les paniers, il est tout simplement trop fort. Alors, est-ce que, oui, tu parlais des arbitres, il y a de l'abus dans l'arbitrage, c'est tout pour le show, mais dans les années 90, quand on voyait les Knicks jouer ou les Bad Boys de Pistons, on se plaignait aussi parce qu'il n'y avait pas assez de points. Donc là, il y en a trop, on se plaint, il n'y en avait pas assez à l'époque, on se plaint, mais la conclusion de tout ça, c'est que les joueurs sont trop forts individuellement et que aucun défenseur ne peut stopper les forces attaquants qui ont NBA. En plus, il y a eu une nouvelle règle qui fait qu'on peut plus maintenant toucher le moindre attaquant parce que Adam Silver fait que a envie de voir des points, envie de voir du show, mais individuellement, les mecs sont trop forts tout simplement.
Fred, est-ce qu'on prend du plaisir? Alors Stephen nous dit que c'est les joueurs sont trop forts. On devrait prendre du plaisir devant notre télévision.
Oui, alors on prend du plaisir sur certains matchs. C'est un peu difficile de dire que sur chaque match on s'amuse en NBA. Ça, honnêtement, ce serait un mensonge et personne n'est dupe. Mais par contre, c'est vrai que c'est l'évolution logique du sport. Les joueurs sont de plus en plus forts, ils artillent de plus en plus loin, ils sont de plus en plus adroits. Mais leur dire que c'est pas du basket, ce serait un peu dur par rapport à toutes les équipes nationales qui les affrontent après. Ces joueurs jouent en NBA et quand ils viennent, ils nous bottent les fesses, si vous me passez l'expression, quand même quand ils viennent. Donc ça reste du basket, bien évidemment. C'est pas le basket que je préfère, mais par contre, on peut pas nier que c'est les meilleurs joueurs du monde.
Évidemment que c'est du basket. Personnellement, c'est pas le mien. Vous l'aviez compris. Moi, je voudrais ouvrir un autre chapitre que celui de Stephen. C'est la saison qui est très longue, trop longue. On a l'impression que parfois les mecs n'en ont rien à cirer de gagner ou de perdre. En Europe, la victoire est quelque chose qui a une valeur énorme. En Euroleague, on le voit, et j'ai pas l'impression en saison régulière que
parce
ce soit pas le cas.
Parce qu'il y a moins de matchs.
Bien sûr. Et aussi parce que il y a des back-to-back, parce que l'enchaînement est absolument dingue. Et quand on voit les mecs, je suis désolé, ça défend pas du tout, puisque l'un des meilleurs, tu disais encore la semaine dernière que LeBron James, ça fait 2 ans et demi qu'il défend pas, etc. Et on voit bien que l'attitude de tout le monde n'est pas la même entre la saison régulière et les playoffs, les joueurs, même le public, a l'impression que pendant toute la saison régulière, ils viennent juste pour manger des chips, ils n'ont rien à cirer, et que en playoff, tout de suite, ils mettent le t-shirt de la salle et tout le monde est au taquet.
Justement, c'est peut-être ça l'évolution, s'inspirer de la NFL.
Il faudrait
la rareté, qui fait beaucoup moins de matchs. Quand chaque match c'est une vraie grosse expérience.
Ah, il y a moins de franchises. Il y a moins de franchises. Il y a 30 équipes de NBA.
Et puis en NFL, avec les coups, ils peuvent pas jouer tous les 3 jours.
Bien évidemment, avec les coups, mais peut-être faire plus de rareté, faire peut-être moins de matchs, et peut-être que ça pourrait recréer un vrai intérêt.
Alors on va y venir tout à l'heure sur les solutions que l'on pourrait apporter. Yann, sur donc le numéro que vous avez fait de basket de ce mois de mars, d'abord, comment vous avez travaillé? Vous êtes allé chercher des témoignages, voilà ce que vous avez pu montrer aux lecteurs.
Bah, nous déjà, ce qui nous a interpellé, c'est le fait que on se posait la question, comme ici on peut se la poser, de est-ce que c'est encore du basket, mais même aux États-Unis ils se posent la question, et moi c'est ça surtout qui m'intéresse. Même en NBA ils se posent la question, le nombre de matchs. Adam Silver lui-même, le patron de la NBA, il a dit qu'il y avait trop de matchs, donc ça prouve bien que pour eux aussi il y a quelque chose à changer, il y a un vrai problème. Et après, nous, l'idée c'était de donner aussi notre point de vue, parce que je pense qu'il beaucoup de personnes parlent de NBA sans regarder de match et parlent de NBA en regardant des highlights. Et je pense que c'est important de regarder vraiment un match de NBA qui dure 48 minutes, ça dure 2h40 avec tous les temps morts. Et quand on se fait ça, il y a des matchs magnifiques. Le Boston-Houston dont tu parlais, c'était un super match. Moi, j'ai adoré ça hier. Mais il y a aussi énormément de matchs catastrophiques.
Oui, j'ai regardé 3 minutes de Clippers Knicks, il y avait 82-46 à la mi-temps hier.
Oui, ça peut te rendre dépressif, hein, très vite.
Est-ce que justement, on parlait modèle poussé à l'extrême, mais la NBA c'est un business.
Mais est-ce que le modèle économique de l'NBA n'est pas exceptionnel? Je veux dire, ils sont chaque année ils progressent.
Et non, mais si, ça va même plus loin. Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est fait pour les gens qui aime le type de basket qu'on a aimé? Est-ce que c'est plutôt pour essayer de continuer
Moi je kiffe la NBA, je kiffe l'Euroleague, kiffe la Deep Elite, je m'y retrouve dans ces trois championnats là.
Mais multiculturel, toi.
Mais je suis multiculturel, mais c'est un business économique, et aujourd'hui la NBA ils veulent toucher autre chose que les États-Unis. D'ailleurs, je l'ai vu dans ton magazine, Yann, où Jacques Monclar a encore été très bon avec quelques punchlines, en disant qu'ils veulent toucher le marché asiatique, ils veulent toucher le marché indien.
Oui.
Et qu'est-ce qui fait vendre ça? Eh ben, c'est des highlights, c'est des step back de James Harden, c'est des énormes dunks de Giannis Antetokounmpo.
C'est du All-Star Game.
Quasiment. Ouais, mais non, mais encore une fois, c'est des highlights qui sont consommés plus que des matchs. Je suis d'accord, là, complètement.
Ils vendent le produit merveilleusement bien.
Oui, ils vendent
merveilleusement bien.
Oui, ça s'adresse au grand public. Et voilà, finalement, tu te dis que quand tu vois, les recettes au cinéma aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de films de Marvel qui font des cartons. Moi personnellement, c'est pas ma culture, et parfois quand je vois NBA, j'ai l'impression de regarder un Marvel quelque part.
Il y a des Marvel exceptionnels. Hein,
oui, mais voilà pourquoi aussi t'as NBA. J'ai l'impression que c'est le festival du cirque de Monte Carlo, c'est-à-dire que tu as, il y a aucun doute là-dessus, tous les plus grands athlètes du monde, mais ça reste quelque part un petit peu du cirque, alors que c'est pas du tout la même chose en play-off.
Mais est-ce que c'est devenu impossible maintenant, et je demande à Yann, tu vas répondre, est-ce que bon défenseur que tu sois, est-ce que c'est pas devenu impossible aujourd'hui de pouvoir être un spécialiste de défense et de pouvoir stopper un mec tellement ils sont forts en face?
Oui. Je crois qu'il y a des joueurs NBA qui ont répondu. Il y a ce joueur Tony Allen qui joue plus maintenant,
qui est spécialiste de la défense,
meilleur défenseur des années 2000-2010.
À Boston d'ailleurs.
Aujourd'hui, il y a plusieurs joueurs qui ont dit Tony Allen, il pourrait plus jouer en NBA parce que lui, ce qu'il faisait, c'était de la défense. Et ce qu'il faisait, c'était coller le défenseur,
toucher. C'était
le toucher, c'était le pousser. Et ça, on n'a plus le droit de le faire. Donc lui, clairement, il pourrait plus jouer en NBA aujourd'hui. Et il y a plein de joueurs comme ça.
Bruce Bowen non plus, sûrement. Hein.
Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est les règles qui ont poussé à ça.
Donc c'est qu'il y a une vraie volonté.
C'est une volonté claire d'Adam Silver.
C'est clair, c'est ça.
Il y a une volonté claire d'Adam Silver de privilégier l'attaque en changeant les règles, en interdisant aux défenseurs de pouvoir toucher.
Voilà, on peut plus.
C'est clairement pour favoriser l'attaque.
Je pense qu'il cherche quand même l'équilibre, parce que sur les audiences télé aux États-Unis, autant il y a eu des audiences, par exemple les matchs de Noël, là clairement on est dans du Marvel et ça a cartonné.
T'as mangé 3 dindes, t'es dans le canapé.
Autant par contre sur le premier tiers de la saison, il y a des audiences, alors ça veut pas dire grand chose parce que c'est que le premier tiers de la saison, mais qui était un peu inférieur à ce qu'on avait vu. Donc est-ce qu'ils sont pas allés trop loin? C'est pour ça que quand même ils réfléchissent, parce que ils sont dans une logique business, mais il faut que les gens continuent à aimer.
Moi je pense que c'est une fausse bonne idée, et que avoir trop de paniers ou non, ça va perdre de sa valeur.
Et c'est pour ça que les performances aujourd'hui, pour moi, les triples doubles de Russell Westbrook, les matchs à 60 points de James Harden, elles n'ont, dire plus aucune valeur, parce que ça reste.
Mais c'est la course au record.
Mais pour moi, ça m'impacte moins que des 58 points de Michael Jordan sans prendre un tir à 3 points il y a 20 ans.
Un autre, bah oui, parce qu'avant, il y avait un mec qui mettait 52 points, tu sais, oh là là, il a mis 52 points le matin, tu te réveilles.
Tous les matins, tu fais, il a mis 52 points. Exactement.
On revient dans un instant pour parler de NBA. Un petit tour des lives. France-Uruguay, match amical de l'équipe de France féminine à Tours. Thierry Leroux.
La 11e minute est toujours 0-0 malgré quelques bonnes occasions pour les Françaises.
Laure, début de match sérieux?
Sérieux, mais j'attends un petit peu plus de cette équipe française. Je trouve que ça manque de qualité technique. On l'avait vu un petit peu sur le match précédent où ça avait manqué de justesse, notamment dans les dernières passes. Maintenant, il y a des joueuses aussi qui ont besoin aussi de gagner leur place, qui avaient été déçues de pas être sélectionnées en fin d'année. Je pense à Viviane Assayi qui est dans ce début de match la joueuse la plus remuante sur le front de l'attaque.
Laure Le Payeur de la Dream Team RMC Sport, la Ligue 2, Le Havre Lens, Christophe Lécuyer.
La 28e minute de jeu et les Havrais qui viennent d'ouvrir le score ici au stade Océane à la suite d'un bon coup franc frappé par Zinedine Ferrat côté gauche. Il trouve le mur Messin, mais le ballon qui est récupéré par Fontaine. Le centre trouve Ferrat dans les 5-50 à la reprise. Ça fait 1-0 pour les Havrais. Ici, c'est le 4e but personnel de Zinedine Ferrat à un quart d'heure de la pause. Les Havrais mènent donc 1-0.
Il y a de la Jeep Elite et on a pensé solidaire sur le hashtag RMC Live. La NBA, ce n'est pas du basket, la Jeep Elite, c'est du tricot. 32-22 pour Monaco face à Cholet. Il reste 5 minutes 30 dans le deuxième carton. On revient dans un instant dans Buzzer Time jusqu'à 22h sur RMC, RMC Sport News.
RMC Buzzer Time.
Jusqu'à 22h, Buzzer Time, votre rendez-vous basket sur RMC et RMC Sport News. On continue de parler de la NBA qui, avec ses matchs au score fleuve, voilà, est-ce qu'il y a encore un réel intérêt avec cette saison régulière? La Dream Team basket, Stephen Brun, Fred Weiss, David Cosette avec nous. Et puis Yann Casville, rédacteur en chef du mensuel Basket, qui publie justement un long dossier sur cette NBA tout pour le show, zéro défense et sans corps du basket. Votez sur notre compte Twitter RMC Sport Buzzer. On était à 70% de oui. La NBA, c'est encore du basket. On était un petit peu provoqués, on va pas se mentir, évidemment. Avant de parler éventuellement des solutions pour rendre la NBA un peu plus attractive sportivement pendant cette longue saison régulière, un petit tour des directs. France-Uruguay, match amical de l'équipe de France féminine. Pierre-Yves Leroux.
Et à l'instant, le quart d'heure de jeu ici à Tours, toujours 0-0 entre les deux équipes, les Françaises qui n'arrivent pas à trouver la solution. Il y aura déjà un premier changement pour les joueuses uruguayennes, puisqu'il y a une des joueuses de la Céleste qui s'est blessée, donc les Bleus Ciel qui évoluent à 10 pour le moment. 0-0, un quart d'heure de jeu.
Alors le Payeur, on est sans revanchard les Françaises, parce qu'elles ont quand même quelque chose à montrer, rien qu'à leur sélectionneuse.
Oui, et elles tombent quand même face à une équipe d'Uruguay qui est bien en place, qui met de l'impact dans les duels. Maintenant, côté française, il faudrait mettre un peu plus de justesse technique pour justement déséquilibrer ce bloc uruguayen si elles veulent trouver la faille, parce qu'on sent quand même que dans les derniers mètres, dans les dernières passes, ça manque de justesse.
C'est la même culture que les hommes, les femmes, l'Uruguay.
C'est physique, l'Uruguay, ça envoie des tacles à la gorge.
Là, c'est assez physique. Maintenant, on voit quand même clairement sur ce début de rencontre qu'il y a quand même plusieurs classe d'écart entre les deux équipes, mais les Françaises doivent faire beaucoup mieux, à mon sens.
Merci Laure, on te retrouve tout à l'heure donc pour la suite de ce match. La Ligue 2, la 27e journée, Le Havre-Metz, Christophe Lécuyer.
Il reste un petit peu moins de 12 minutes à jouer dans cette première période. Les Havrais qui mènent donc 1-0, le buteur Zinedine Ferrat tout à l'heure à la 22e minute. Les Havrais tout proche du 2-0 tout à l'heure, sans un arrêt magnifique effectivement du portier messin Oukidja. Mais les Messins ne sont pas en reste, eux aussi ont bien failli égaliser tout à l'heure en coup franc de Coad, repoussé par Thuram. Nguette avait bien suivi, il voit son ballon repoussé encore une fois au prix d'un magnifique double arrêt de Johan Thuram, le portier havrais. 34 minutes de jeu ici à Océane. Toujours ce score d'un but à zéro pour Le Havre.
Merci Christophe. Et puis il y a de la Jeep Elite, la 21e journée, Monaco-Cholet, plus 5, 32-27 pour Monaco à 3 minutes 30 de la fin de cette première mi-temps. On accueille Jérémy au standard qui a composé le 32-16. Supporter Limougeau, je le précise pour Fred. Bonsoir Jérémy.
Salut à tous.
Alors à cette question, la NBA, est-ce encore du basket? Que réponds-tu?
Ouais, je vais quand même répondre oui, répondre non, ça serait un peu, peut-être un peu abusé, mais je comprends très bien votre débat. Je vais vous dire franchement, je prends presque plus de plaisir à regarder un bon match d'Euroleague qu'un match de NBA, moyen, on va dire, parce que le tout pour l'attaque, c'est très bien, on voit de très beaux paniers, des grands dunks, des gros shoots à trois points, mais la défense, ça compte aussi pour moi dans le basket, et ça en manque vraiment, je trouve. En saison régulière, arrivant en play-off, évidemment que ça défend un peu plus parce que voilà, les matchs sont beaucoup plus importants. Mais sur la saison régulière, est-ce qu'il y a trop de matchs? Est-ce que je ne sais pas, mais bon, ça, pour moi, ça manque de défense, clairement.
En même temps, c'est Limougeau qui dit ça, élevé avec Malkovic, donc forcément, c'est logique qu'il aime la défense. C'est pas
surprenant. Après, on verra en play-off, mais je suis pas sûr qu'en play-off, les matchs descendent en dessous des 100 points ou des 110 points. Moi, je suis sûr qu'en play-off, il va y avoir des matchs à 120 points, quoi qu'il arrive. Le fait qu'il y ait des matchs à 120, 130 points, veut pas dire que ça défend pas. Et je le répète, les mecs, ils essayent de défendre, mais maintenant, ils ont des règles où ils peuvent quasiment plus rien faire et que alors, les mecs en face
on sent pas non plus une volonté collective parfois de défendre non, mais ensemble.
Ça a été le souci de la NBA, c'est que ils sont dans l'homme à homme, stopper son mec. Il y a pas beaucoup d'organisations dans très peu de franchises NBA, il y a des organisations défensives développées avec des aides à l'opposé. On voit rarement ça en NBA. Certaines franchises, je pense au Jazz, je pense aux Spurs qui sont un peu plus structurées, mais sinon que les équipes NBA, elles sont plus dans je tiens mon mec et comme les mecs sont trop forts, et ben tu tiens personne en fait.
Pour moi, la culture là-bas, c'est la glorification des superstars, c'est un peu le culte du super-héros, et je ne comprends pas, alors qu'il y a déjà les plus forts attaquants du monde, pourquoi est-ce qu'ils en rajoutent à les favoriser, les privilégier, les arbitrer un peu différemment, dit surtout ne les touchez pas, puisque déjà les mecs sont prodigieux.
Oui, mais c'est leur volonté, c'est la personnification, la starification, comme tu juste je te rejoins. Mais c'est forcément leur volonté. Eux, ils ont besoin d'avoir des têtes de gondole.
On en revient au culte du super-héros, mais on va essayer d'avoir déjà. Enfin, c'est ça. Moi, ça m'échappe un peu.
On va essayer de trouver quelques solutions. Yann Casville, rédacteur en chef du mensuel Basket, avec ce dossier. Est-ce que déjà on peut trouver quelques solutions, quelques pistes dans ce dossier après présent dans le mensuel?
Bah, la première, c'est ce qui est donné par les joueurs, c'est qu'il y a un meilleur équilibre de l'arbitrage, parce que d'un match à l'autre, on sait jamais vraiment comment ça va être arbitré. D'un match à l'autre, on va avoir le droit d'être vraiment collé à son défenseur et certaines fois, pas du tout. Les marchés, ils peuvent être sifflés dans certains matchs, ils le seront pas du tout dans d'autres. Donc déjà, en termes de défense, c'est Rudy Gobert qui l'a dit plusieurs fois. Pour lui, c'est un casse-tête, parce qu'à chaque match, il y a un vrai problème. À chaque match, il sait pas vraiment à quelle sauce il va être mangé, il sait pas s'il va avoir le droit de pousser ou pas. Donc rien que là-dessus, déjà, s'il y avait une meilleure cohérence, je pense que les joueurs, ils pourraient un peu plus se donner en défense.
Et la ligne à 3 points, ça aussi c'est un vaste débat, parce qu'on voit notamment avec Stephen Curry qui est exceptionnel, ça change un petit peu les habitudes, notamment chez les plus jeunes. Et Draymond Green a répondu à Mark Jackson, ancien coach des Warriors, qui avait dit que Stephen Curry faisait mal au basket, voilà, avec tous ses tirs pris, ses tirs incroyables.
Je pense qu'il fait moins mal au basket que James Harden, je peux te le dire.
Non, mais en fait, Mark Jackson, il voulait, vas-y, tu vas faire.
Et Draymond Green, en fait, a répondu à The Athletic pour dire que finalement, il est d'accord, parce qu'il voit aujourd'hui des jeunes enfants.
Il fait mal,
il prend des tirs, il y a pas de fondamentaux.
Ouais, mais maintenant, il prend
des tirs n'importe comment.
Il dit, Mark Jackson et Draymond Green a dit, pour confirmer, je suis allé voir un match de fac et de high school, et j'ai vu des gamins être omnubilés par la ligne à trois points, ne pas traverser la ligne à trois points, vouloir s'arrêter.
Ouais, sauf que tous, ils sont pas Steph Curry, et c'est vrai que ça fait mal.
C'est pour ça que Mark Jackson a dit ça, que ça faisait mal au basket.
Comme certains à l'époque essayaient d'imiter Jordan avec des belles arabesques, il n'y arrivait pas.
Comme Zidane aussi, pour le
coup de boule.
Moi, au-delà de ça, sur ce qu'on voit en NBA, il y a quelque chose qui me gênerait. Si jamais, imagine, Houston est champion, pour moi ce serait pas un super message, parce que derrière, comme
c'est possible, hein,
d'autres ont
une
suivi,
une équipe spécialiste pour des tirs réussis sans panier, sans passe décisive.
D'autres ont suivi Golden State parce qu'ils ont vu. Alors après, ils ont des joueurs qui resteront dans l'histoire de la NBA, donc les autres essayent de faire pareil, etc., que les trois points. Mais là, si jamais moi Houston, si jamais ils sont champions, ça veut dire quoi? Que d'autres vont dire, ok, on va filer toutes les gonfles à une superstar.
Moi, je dirais chapeau à Mike D'Antoni, si Houston est champion, c'est parce qu'il a su rentabiliser au maximum les qualités de son équipe, qui est le tir à trois points et le joueur formidable qui est James Harden, tout simplement. N'importe quelle autre équipe NBA ne peut pas jouer comme Houston joue, parce que James Harden est unique.
Moi, j'ai tendance à penser que jamais ils ne seront champion NBA, parce que en playoff, ça ne passera jamais.
D'accord, sauf que l'année dernière, il perd de match 7 contre les Warriors sans Chris Paul qui est blessé.
Il menait 17 à la mi-temps.
17 à la mi-temps.
Est-ce que, pour revenir à cette fameuse ligne à 3 points, est-ce qu'il faut la reculer? Est-ce qu'il faut ajouter une ligne à 4 points, Fred?
Non, moi je suis contre la ligne à 4 points, parce que je vois pas trop l'intérêt. Mais par contre, reculer la ligne à 3 points, ce serait pas illogique. Quand on voit les monstres actuels au niveau du shoot, on se dit que il y aura un pourcentage qui serait un petit peu en baisse déjà, mais ça laisserait un peu plus d'espace pour jouer à l'intérieur peut-être.
Ouais, mais pourcentage en baisse, est-ce que ça empêcherait les mecs de tirer à 3 points? La seule avantage de reculer la ligne à 3 points, c'est qu'on pourrait peut-être redéfinir certains postes de jeu.
Mais c'est pour ça qu'on pourrait retrouver des pivots.
Aujourd'hui,
peut-être,
tous les intérieurs, ils passent leur temps à tirer à 3 points.
Déjà ça me plaît.
Nicolas Jokic tire à 3 points, donc ça pourrait peut-être redéfinir le rôle et donner un petit peu plus d'espace sur le tir à 2 points intermédiaire.
Ce qui
n'existe plus du tout en NBA. Si vous reculez la 3 points, il y aura peut-être plus.
Il y a beaucoup d'endroits où il n'existe plus par contre à 2 points.
Le problème, c'est que si vous reculez la NBA, les défenses vont être encore plus étirées et ça va laisser beaucoup de place aussi au drive, et des points, il va y en avoir quand même quoi qu'il arrive.
Ouais, et puis il y a plus de corner, parce que déjà que la ligne à 3 points, elle est
il faut grandir les points.
C'est compliqué quoi.
Il faut pas avoir des petits pieds, hein, parce qu'ils ont peu d'espace entre la ligne de touche. C'est les seules pistes, ou est-ce qu'il y a des idées?
Réduire les matchs, vous pouvez pas supprimer une franchise, c'est impossible.
Mais non, mais tu peux te faire très bien, il y a 30 franchises, donc tu peux très bien faire 58 matchs.
Après, c'est un manque à gagner énorme aussi.
Après, c'est un manque à gagner. Les droits télé qui sont construits, ils ont payé pour 82 matchs.
Repensons à la NFL qui a créé ce truc de, chaque fois qu'on va avoir un match NFL, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est pas
tout le temps. Surtout que la NBA, c'est peut-être la surmédiatisation des highlights, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit peut-être des largesses défensives qu'on ne voyait pas avant, parce qu'aujourd'hui, on peut consommer tous les matchs et on peut voir
que déjà, les arbitres, ils arbitrent correctement.
Mais c'est quand même, j'ai envie de dire, on parle du problème d'arbitrage en NBA, mais il est un peu partout, hein. Dans toutes les ligues, on se parle d'arbitrage, mais en NBA, c'est quelque chose qui est un petit peu tabou. Je sais pas, un jour, il va peut-être y avoir un dossier, ESPN va s'y mettre ou CNN va s'y mettre.
D'ailleurs, vous avez interrogé un journaliste de Sports Illustrated.
L'arbitrage NBA, il est catastrophique.
Ouais, c'est Alexander Wolf qui a passé plus de 30 ans à Sports Illustrated. C'est pour ça qu'on lui a donné la parole. C'est parce que lui, il a vu des matchs, c'est sa vie depuis 3 décennies maintenant, même plus. Et donc, il était capable de comparer avec ce qui se faisait dans les années 80, 90, 2000, 2010. Et lui, il a tendance à nuancer son propos en disant, de toute façon, le vrai basket, ce qu'on peut définir comme le vrai basket si on veut un peu caricaturer les choses, il va arriver en play-off. Quoi qu'il se passe, lui, il est persuadé qu'en play-off, les choses Moi, je suis assez d'accord avec lui. Je pense effectivement, il y aura toujours des matchs à 110 points en play-off. Je vois pas pourquoi ça changerait. Mais par contre, il y aura plus d'intensité. Puisque moi, ce qui me manque aujourd'hui dans le basket NBA, c'est pas le fait qu'il y ait des matchs en 80 points. Ça me manque pas. Ce qui me manque, c'est l'intensité. Après, si les mecs sont trop forts et qu'ils mettent dedans, bah oui, ils sont.
Mais ça fait, Stephen, ça fait quand même 10-15 ans que la saison régulière, les mecs commencent à jouer au quatrième carton. Là, c'est pas une nouveauté cette année. Hein.
Bah c'est triste.
Ça merci amuse. Yann. Tu restes avec nous pour le 1 contre 1. On rappelle le mensuel basket NBA tout pour le show 0 en défense et sans corps du basket qui est disponible dans les kiosques. Le sondage, la NBA sans corps du basket, vous avez été nombreux à voter. Oui à 71%.
Mais oui, France, bravo messieurs.
Uruguay, c'est du football. L'équipe de France féminine, le score a bougé Pierre-Yves Leroux.
Exactement, puisque les Françaises ont pris l'avantage grâce à Viviane Asseyi il y a 3 minutes, servie par Marion Torrent sur le côté droit. L'ouverture du score pour les Françaises, 25 minutes de jeu, 1-0 pour l'équipe de France face à l'Uruguay.
Merci Pierre-Yves, on revient dans un instant sur RMC, RMC Sport News, le fameux 1 contre 1, l'actualité du basket français sous forme de quiz, Buzzer Time jusqu'à 22h.
RMC Buzzer Time.
Jusqu'à 22h, Buzzer Time sur RMC, RMC Sport News. Dans un instant, le 1 contre 1. On retourne à Tours, France-Uruguay. Match amical, match de préparation de l'équipe de France féminine. La France qui mène 1-0. Pierre-Yves Leroux, Laure Lepailleur. Laure, c'est physique, on parlait des Uruguayennes physiques. Mais là, c'est les Françaises. D'ailleurs, Pierre-Yves, raconte-nous.
Bah écoute, il y a effectivement à nouveau une joueuse uruguayenne qui est au sol, alors qu'il y a déjà eu un changement pour la Céleste, donc petite inquiétude, non ça va, elle va se relever, elle va pouvoir poursuivre, mais c'est vrai que ce sont les Françaises aussi qui répondent physiquement dans cette rencontre où elle mène un but à 0 après 28 minutes de jeu depuis l'ouverture de Viviane Asseyi, qui a quand même un petit peu rassuré les spectateurs ici qui sont en 11 000 et qui commencent à faire la hola, parce que normalement ce match est largement à la portée des Françaises.
Laure Lepailleur.
Oui, bah sur le but, les Françaises sur la seule sortie uruguayenne a réussi à exploiter l'espace libéré dans le dos pour la vitesse de Delphine Cascarino. À l'arrivée, on voit Viviane Asseyi qui marque ce premier but. C'est la joueuse en tout cas sur le plan offensif la plus en vue. Elle a des points à gagner ce soir. Il y a encore des places à gagner pour cette liste des 23. Maintenant, j'attends aussi un peu plus de Valérie Gauvin en pointe de l'attaque. Je trouve que on a du mal à la trouver en point d'appui, ce qui est normalement sa qualité première. Il y a aussi Grace Vieiro qui essayait en numéro 10. On devrait l'avoir un petit peu plus en meneuse de jeu. Et je pense que la France aussi doit donner un petit peu plus de rythme dans cette rencontre, notamment dans les transmissions accélérées, parce qu'on sent que quand même ces Uruguayennes sont quand même dépassées et ça va être dur quand même de jouer les 90 minutes.
Il y a peut-être une occasion là, Pierre-Yves ?
Oui, effectivement, avec un nouveau ballon dans la surface de réparation. On a cru que Viviane Asseyi allait pouvoir reprendre et finalement sa remise ne trouve personne. Mais c'est vrai que c'est quand même de l'attaque-défense depuis quelques minutes et je serais pas surpris que je puisse vous annoncer un autre but pour les Françaises dans quelques instants.
Et on espère la bonne nouvelle. La Ligue 2, 27e journée, Le Havre-Metz, Christophe Lécuyer.
Tu arrives au très bon moment, Arnaud, puisqu'à la mi-temps a sifflé à l'instant même par François Le Texier sur ce score d'un but à zéro pour les Havrais. L'unique but de cette première période signé Zinedine Ferrat donc à la 22e minute, mi-temps assez agréable avec des occasions de part et d'autre, un match assez équilibré, mais à la pause, ce sont donc les Normands qui mènent.
Merci Christophe, à tout à l'heure, et enfin la Jeep Elite, c'est la mi-temps, Monaco qui mène face à Cholet, 39-35. Ce soir, grâce à Buzzer Time, vous pouvez remporter des places pour la 22e journée de Jeep Elite, Nanterre, Levallois, Le Mans, Villeurbanne. Pour gagner vos entrées pour un de ces deux matchs, rendez-vous immédiatement sur le compte Twitter de RMC Sport, Buzzer. Je sais que vous attendez ça. Le 1 contre 1, messieurs, Stephen Brun, David Cosette, face à Fred Vess et Yann Cazeville, rédacteur en chef du mensuel Basket, qui est resté avec nous. On commence. Il y a des questions de rapidité, c'est pas très dur. Hein.
C'est pour toi, la rapidité, c'est pour
honnêtement,
toi.
Honnêtement, on commence par un petit qui a dit l'enchaînement des matchs m'inquiète, on ne va pas pouvoir...
Pascal Donadieu.
Je crois que Stephen l'avait, hein. Je pense que Stephen l'avait.
Donc déjà, tu commences à tricher.
C'est bien la première fois que je vais te dire. Oui, Stephen l'avait.
L'arbitrage vidéo.
Pour moi, c'est limite. Ouais, mais il a
annule.
On annule.
Oui, on annule.
Oh là là, il est senior. J'ai rarement vu ça.
C'est ouais. Parce que c'est un magazine de qualité.
Pascal Donadieu après Nanterre-Limoges, puisqu'il a perdu Waters. Ouais. Son joueur, il est en quête d'un pigiste et...
En quête d'un pigiste, et surtout, mercredi arrive le match aller de huitième de finale de Champions League, le match retour a lieu la semaine d'après, il y a le match de championnat, et Dominique Waiters, c'est un joueur capital pour l'équipe de Nanterre.
Quel joueur est le meilleur passeur français? de Jeep Elite.
Edouard Choquet.
Edouard Choquet, bonne réponse.
Oh là là.
De Yann Casville.
Il me plaît bien ce jeu-là ce soir.
Passe de moyenne.
Et il faut surmettre à l'équipe qui fait le plus de passes décisives de notre championnat.
Et voilà, avec Rémi Giuita, très bon jeu proposé par Fos. Il y a un joueur.
T'emballes pas non plus.
Non, mais du beau jeu, même en probé, ça jouait, non, mais.
Bah, s'ils font beaucoup de passes décisives, le ballon circule bien, en tous les cas.
Ouais, ou alors ils shootent peut-être 70 fois par match.
C'est possible aussi.
Alors, il y a un joueur français à Andorre.
Andorre,
non, c'est pas pour un point. Oui, Andorre ici. Il est champion d'Europe des moins de 20 ans en 2010. Quel actuel entraîneur de Jeep Elite était sur le banc en tant qu'assistant?
Olivier Bourguin.
Non.
Quel actuel entraîneur de Jeep Elite était
sur le banc en tant qu'assistant?
Des moins de 20 en 2010.
Avec ce titre de champion d'Europe.
Quel actuel entraîneur?
C'est la génération d'avant, Rudy Gobert, je crois. Non, ce n'est pas Laurent Le Niam. Et il était d'ailleurs encore sur le banc en tant qu'assistant des moins de 20 pendant ces dernières années, hein. Je ne sais plus s'il l'est actuellement, mais sur
Laurent Villa.
Laurent Villa, bonne réponse de David Choquet. Effectivement, il assiste, je crois, je ne sais plus s'il assiste.
Jean-Métoupane. Avec Dounia Issa aussi qui a rejoint le.
Dounia Issa, absolument. Un partout entre Stephen, David, cette équipe et Fred et Yann. Bourges sera le 11 mai prochain en finale de la Coupe de France féminine. Contre qui?
Charleville.
C'est là. Oh. Doublette.
Non, honnêtement, je leur donne là.
Ouais.
Effectivement. Ils le méritent largement.
Contre Charleville-Mézières.
C'est la troisième finale consécutive. Ouais. Bourges-Charleville-Mézières.
Deux équipes. Bah, Bourges toujours au top. Et puis Charleville, ça fait plusieurs années que les Carolo-Massériennes sont également au top. On reste dans le basket féminin. Quel club féminin a remporté la Coupe de Turquie? Stephen Brun. Et pourquoi on parle de
Fenerbahçe?
Voilà, la sélectionneur de l'équipe de France, Valérie Garnier, et la nouvelle meneuse, la franco-américaine Bria Hartley. Tiens, un petit qui a dit?
Mais combien dur, déjà 4-1 là.
C'est 3-1.
3-1. Qui a dit? On n'a pas créé une association pour qu'elle devienne spéciale. On veut montrer la voie pour que tous les clubs de basket aient une équipe sport santé. On dispense.
Laetitia Kamba.
Bonne réponse de
celui-là, ma fille, c'est ma fan qui a dit ça.
Pourquoi? Parce qu'elle, avec Joanne Gomis, les deux joueuses de Villeneuve-d'Ascq, elles sont présidentes de l'association Sneakers. Ensemble, partageons le drip de la vie. Une association qui vient en aide et qui accompagne des personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Et elle leur propose des entraînements deux fois par semaine de basket.
Donc lundi et jeudi à 20h30 au Palacio.
Donc on fait des questions familiales.
Oui. Un petit clin d'œil, voilà, pour un petit clin d'œil à l'association quand même. C'est normal de donner un petit clin d'œil. Alors, pour 3 points.
Voilà. Je savais qu'il y avait toujours une carotte dans ce quiz.
Pour 3 points, je veux que vous me citiez les 20 meilleurs marqueurs français de Jeep Elite. Comment ça va se passer? Chacun votre tour. Vous me donnez un nom. Si c'est dans le top 20, par équipe évidemment. Si c'est dans le top 20, vous continuez. Si c'est pas dans le top 20, vous perdez. Format séance de tir au but. Et on commence par l'équipe qui est en retard.
Ben, ça fait bien marrer l'or en tout cas. Elle s'amuse bien au 1 contre
1. Alors le top 20 des meilleurs marqueurs français. On y va. Une seule réponse.
Youssef Fall
évidemment le premier avec 15,3 points.
Il est français, je ne sais pas s'il est français. Hein.
Mais il vient de dire qu'il l'avait fait.
Selon LNB, il est naturalisé. Selon LNB, c'est dans les joueurs français.
Tu me fais confiance, gros?
Alors
ouais, je vais te dire un garçon surprenant, je vais dire Pierre Pelos.
Ouais. T'es sûr de toi?
Je suis sûr de moi.
Il est sixième, Pierre Pelos.
Oui, en 12 plus, j'ai lu l'article dans le basketball.
Ali Traoré,
il est troisième. C'est bon, 13,8 points.
Consultez-moi avant de dire une connerie.
La première réponse sera...
Axel Bouteille,
cinquième, 13 points par match, évidemment. Ça, normalement, ça doit être facile. Hein.
Là où
Konaté, 13,3. Il est quatrième.
Paul Lacombe.
Dans les 20. Hein.
20 français.
Ouais.
Paul Lacombe,
c'est bon. Il est huitième, 11,7. Ça se consulte, évidemment, faut pas... Vous êtes à égalité, donc ils peuvent se tromper. Vous aurez une balle de match. C'est 3 points, hein, donc vous pouvez plier le quiz. Hein. Stephen et David, vous menez 4-1. Allez, faut y aller, Fred et Yann. Hein. On y va. Hein. Allez, sinon je...
Jérémy Leloup,
c'est bon, 17e. C'est assez large. Au début, je devais faire le top 10, mais comme vous êtes nombreux aujourd'hui pour le quiz. Stephen, David.
À qui on peut penser, David?
Allez, on y va.
Moi, je vais dire Benoît Mangin du Portel.
Benoît Mangin, 14e. C'est respect, bon. Allez, on y va.
Mais les miens sont bons.
Il y a encore des noms, hein.
Nicolas De Jong.
Oui. Il est deuxième, évidemment. 14 points.
Oui.
Très bien.
Oui.
Là, vous avez cité le top 6.
C'est dans.
On a cité le top 6.
Entier.
Tu m'as dit
Stephen David, allez, on y va.
Charles Cahudi.
Charles Cahudi, il est 20e, tout pile.
Je savais, 7 points. C'était chaud.
Allez. Fred, Yann.
Amine Noah.
Amine Noah, 10e, c'est bon. Allez, à vous. 3 secondes. Hein.
3 secondes, t'en plains pas, ils ont mis 10 minutes.
Ah, mais oui, il faut que ça aille
oui,
vite.
Mais maintenant, hein. ça
vous avez aussi droit à vos 10 minutes.
William Howard.
William Howard.
Oui. William Howard, c'est bon, 16e. Ça va loin dans ce quiz. Fred, Yann, allez. 3.
Antoine Aito.
Non,
Antoine Aito, c'est pas bon.
C'était Bigot qu'il fallait choisir.
Et alors
Valentin Bigot.
Valentin Bigot, c'est bon. Les 3 points, ça fait 7 à 1.
Désolé.
Ah, c'est pas grave.
J'arrête pour le fun.
Ça s'appelle une fessée sans pantalon.
Il y avait, si vous voulez, je vous donne les autres. Hein. Il y avait Papsi, Yohan Passav, Alain Kofi, Yacouba Ouattara, Ousmane Camara, Wilfried Yéhété, Jean-Michel Mipoca.
Je dis que j'ai abouti, il y est pas.
Ouais.
Une charade, allez,
pour l'honneur. Beauté.
Mon premier est le saint patron des vignerons. Mon deuxième fait partie de la famille des rosacées dont le nom latin est Pyrrhus communis. Mon tout est le MVP de la 21e journée du championnat espagnol.
Vincent Poirier.
Ouh, j'ai un petit doute avec Yann quand même. Hein.
Non mais c'est pas très grave.
Vincent Poirier, évidemment le pivot de Vitoria, 18 points à 100% au tir, 8 rebonds, 2 passes, 6 fautes provoquées, 34 dévaluations en 29 minutes lors de la victoire contre Malaga, club de Mathias. Le sort deuxième fois qu'il est MVP de la journée. Bon bah là c'est net et sans bavure. 9-1. Pour Stephen David.
Merci Yann d'être venu.
Merci.
Très sympa.
Yann,
c'est pas
on rappelle.
Pour 6 points la dernière, non?
Non, c'était 2 points. Basket, voilà le magazine mensuel avec cette enquête donc sur la NBA, encore du basket. On vous le conseille avec James Harden en couverture. Un petit tour du côté de Tours, France sur Uruguay, match de préparation de l'équipe de France féminine. Pierre-Yves Leroux.
38 minutes de jeu et la France qui a doublé la mise par Charlotte Bilbao. Une superbe frappe des 25 mètres qui va dans la lucarne des buts de la gardienne uruguayenne. Très très joli but à un moment où je trouvais que l'équipe de France était vraiment en difficulté au niveau de la finition, donc il a fallu un exploit personnel, celui de Charlotte Bilbao, pour doubler la mise. Il reste 7 minutes à jouer en première période et la France qui mène donc 2 buts à 0.
Alors le parieur de la Dream Team RMC Sport, tu partages le constat de Pierrick sur voilà cette finition, des fois on est un petit peu
une équipe gourmand. De France, ouais, une équipe de France en difficulté, et quand on est face à une équipe justement regroupée, la frappe de loin est une solution et Charlotte Bilbao a saisi cette opportunité et double la mise.
Merci Laure Le Payeur, merci donc à Yann Casville qui a été avec nous pour donc ces 3 quarts d'heure dans Buzzer Time. On se retrouve dans un instant pour Locker Room. On va parler d'Alexis Aginsa et de Las Vegas tout de suite sur RMC, RMC Sport News.
RMC 21h-22h Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time sur RMC, RMC Sport News. Le Locker Room dans un instant. Un petit tour des lives. France sur Uruguay, match de préparation de l'équipe de France féminine de football. Pierre-Yves Leroux à Tours.
On se rapproche tranquillement de la pause, 41e minute, les Françaises qui se sont rassurées avec ce deuxième but, 2 à 0, donc grâce à cette belle frappe il y a quelques instants de Charlotte Bilbao.
Alors, le pailleur, 2-0 à la mi-temps, bon, tranquille. Hein.
Moi, elles font le travail, mais je trouve que dans le contenu, ça manque quand même d'intensité, de justesse technique, et surtout dans la dernière passe, elles doivent travailler sur le plan offensif. Et pour l'instant, c'est pas, voilà, elles réussissent pas tout.
Merci Laure. La Ligue 2, c'est toujours la mi-temps entre Le Havre et Metz, la JP Elite. 41 pourtant à 0 pour Le Havre face à Metz, la JP Elite, la 21e journée. 41 partout également, score de parité entre Monaco et Cholet pour la première de Sacha Obradovic. Vous avez un œil sur la rencontre, messieurs.
Oui.
Cholet avec Herman Kouter qui s'accroche.
Cholet qui est devenu une bonne petite équipe, un London Perantes très bon, et puis Monaco, c'est pas encore. Enfin, je sais pas si Sacha Obradovic en une semaine a eu le temps d'imposer sa patte, et en plus de ça, il peut pas coacher. Hein. Il est derrière les balustrades, donc première compliquée pour Sacha Obradovic.
Allez, tout de suite, Locker Room dans Buzzer Time.
RMC. Buzzer Time. Buzzer Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Locker Room.
On accueille Cyril Méjean. On pourrait presque dire de la Dream Team Basket aussi. Hein.
Bien sûr.
Et là, Cyril. Et là, je vais dire...
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, messieurs.
Cyril, tu es avec nous pour nous parler de ce qui s'est passé vendredi et de ses conséquences. L'Asvel affronte le Portel et à la mi-temps, Alexis Aginsa, le pivot arrivé 2 mois plus tôt, aurait échangé des mots, altercation en tout cas verbale avec son entraîneur Zvendan Mitrovic. Va-t-il quitter le club 2 mois après son arrivée? En tout cas, l'affaire a pris des grosses proportions.
Oui, il est pas du tout revenu sur le banc en deuxième mi-temps lors du match contre le Portel en JP Elite. Il est même parti avec sa femme, ses enfants, la famille, ils sont rentrés à la maison. Donc, il n'était plus présent. Il a été interdit d'entraînement le dimanche avec le groupe de l'Asvel. Et puis, conférence de presse aujourd'hui avec Zvezdan Mitrovic, le coach Villeurbanne. Et l'annonce est faite, il est en dehors de l'équipe. Donc, il ne jouera pas contre Andorre demain en Eurocup en quart de finale. Et il ne devrait probablement pas jouer également contre Andorre le match retour qui aura lieu vendredi. Et puis Alain Clou, le directeur général adjoint du club, a précisé que le club est en train de réfléchir avec ses conseils à la suite qui va être donnée à cette affaire. Le joueur ne fait pas à ce jour l'objet d'une procédure disciplinaire. Donc pour l'instant, il est toujours athlète de l'équipe et il est dans l'équipe. Mais sa présence ou son absence est donc uniquement liée à des aspects sportifs. La meilleure des choses est qu'il ne participe pas à l'entraînement, mais nous ne l'avons pas imposé de manière officielle de ne pas participer aux entraînements. Donc aujourd'hui, tout est possible. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il ne jouera pas demain. C'est le choix du coach et il ne devrait pas être à l'entraînement de toute la semaine.
Fred,
j'ai rien compris.
Décision sportive ou décision
juste pour comprendre, moi aussi, je suis un peu dans le doute. C'est-à-dire que s'il a, lui, la volonté de s'entraîner, s'y opposera pas, c'est ça?
Il peut s'entraîner, mais il ne s'entraînera pas avec l'équipe professionnelle par choix du coach.
Non, je pense que Zvezda Mitrovic n'en veut plus.
Il n'en veut plus.
Mais qu'ils n'ont pas de suffisamment de choses pour faire une procédure de licenciement. Donc il fait partie de l'équipe. Il va s'entraîner avec le préparateur peut-être ou en muscu ou avant l'entraînement collectif ou après l'entraînement collectif. Je pense que Zvezda Mitrovic.
En fait, ce que le club a tenu à préciser, c'est qu'il n'y a actuellement pas de procédure de licenciement contre lui. Il est toujours dans l'effectif professionnel.
Ça peut arriver ou ça peut être en statu quo jusqu'à la fin.
Fait là, il peut. C'est déjà licenciement, tu l'as fait tout de suite, non?
Pas forcément. Dans les entreprises, c'est pas une obligation. T'as une période.
Déjà, t'as un entretien préalable. Voilà, qui n'a pas encore eu lieu, et après, il y a une semaine avant de le confirmer et tout ça.
Enfin, si tu fais ça, t'as pas ce genre de communication. Mm-hmm. Si tu es dans l'entretien préalable pour un licenciement pour faute grave, tu
fais. Parce que justement, ils sont en train de voir avec leur conseil. Donc peut-être qu'en voyant avec leur conseil, ils auront la.
Donc on se dirige plus vers. En tout cas, une séparation. Ouais, on ne risque plus de voir Alexis Agençay avec le maillot de l'ASVEL, là, compte tenu un petit peu de ce qui se passe, des mots. Coach Mitrovic n'en veut plus.
Enfin, en tout cas, c'est la communication de l'ASVEL. C'est, on a l'impression qu'il marche un peu sur la pointe des pieds et.
Ouais, et puis.
Pour arrêter l'expression, il tortille un peu des fesses. Parce
après, est-ce qu'ils sont pas en train de garder Alexis Agençay en route de secours? C'est un petit peu péjoratif parce que le secteur intérieur maintenant commence à être démuni. Alpha Kaba est blessé, il se retrouve avec Bilan, Noah et
Jean-Charles.
Intégrer le groupe là, alors que le coach l'a dit anglais, a dit clairement il le veut pas dans le groupe.
On sait pas, il est parti
à la mi-temps du match chez lui.
Et la confiance mutuelle, elle est rompue. Enfin, comment tu peux renouer le lien?
Samuel Salimon est revenu.
Oui, moi je serais pas étonné si Alessia revient. Je pense que l'ASVEL est en train d'étudier le marché, voir s'il y a d'autres.
Samardo Samuel avait été mis à pied. Et on a le droit de faire ça. C'est simplement quelque chose d'une entreprise normale. On le met à pied, il a le droit de revenir à pied. Après, là, il n'y a rien du tout. C'est encore pire.
Écoute, affaire à suivre. Mais s'il revient dans l'équipe, je suis pas surpris.
Alexis Agençay depuis son arrivée début janvier. 7,7 points, 3,2 rebonds en 14 minutes. Alors, c'est un joueur qui revenait après des problèmes aux blessures. L'été dernier, par les Clippers, où il avait été tradé juste avant par les Pelicans. On peut pas dire que ça soit non plus un... Four total, Alexis Agençay.
C'est surtout triste pour Alexis.
En termes d'image, c'est hyper néfaste.
C'est pas terrible. Et après, on dit ça sans savoir ce qui s'est passé.
Oui, bien sûr.
Exactement.
Non, c'est ça qui est important.
Qui a insulté qui en premier?
Il a pris une faute technique, en fait.
Il a pris une faute technique.
C'est un petit peu chaud, voilà.
Faute technique. Mauvais shoot à la fin de la première mi-temps. Zvezda Mitrovic est apparemment rentré sur le parquet en renversant en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas quoi. Et là, les mots sont partis dans le couloir. On sait pas exactement ce qui s'est passé. Après, sportivement, Alexis Agençay, est-ce que c'est une déception? Je sais pas si c'est une déception, parce que c'est un garçon qui a pas joué depuis une saison et demie, c'est compliqué. Il arrivait pas dans un club qui était en péril, qui était en difficulté. On n'attendait pas de lui, qu'il mette 15 points, 8 rebonds pour remonter le club. C'est une équipe qui était première de JP Elite, une équipe qui gagne quasiment tout en Eurocup. On savait qu'il allait avoir besoin de temps,
Mais si tu veux aller loin dans la saison, il était en train de continuer à progresser physiquement. Je pense qu'il aurait pu être très intéressant pour
l'Azur. Est-ce qu'il n'est pas frustré aussi, est-ce qu'il n'y a pas une frustration personnelle
de jouer 11 minutes en JP Elite,
Si c'est ce problème-là, c'est de sa faute. Il savait bien qu'en arrivant après plus d'un an de blessure, presque deux, qu'il allait pas être au top.
Oui, il a le droit aussi d'avoir une frustration personnelle sur son temps de jeu. Ça fait quand même deux mois qu'il est là. Il estimait peut-être. Je parle peut-être à sa place, mais en tant que joueur, t'as peut-être une estimation.
T'as toujours une volonté de jouer, mais tu peux être conscient des réalités aussi.
On revient dans un instant, mais c'est la mi-temps à Tours, France Uruguay, match de préparation de l'équipe de France féminine. Pierre-Yves Leroux.
Avec un troisième but en bonus juste avant la pause pour les Françaises, but de Valérie Gauvin sur un bon centre venu de la droite. J'étais même pas certain qu'elle l'ait touché finalement, et ce but lui est attribué. Ça fait donc 3-0 pour les Françaises après cette première période. Voilà, donc au niveau du tableau d'affichage, c'est plutôt rassurant, mais comme le disait Laure tout à l'heure, sur la manière, il y a peut-être encore à progresser. C'est vrai qu'aussi que l'Uruguay est quand même un adversaire de faible niveau ce soir.
Laure Le Payeur, avis partagé sur cette faiblesse uruguayenne.
Ouais, une prestation quand même, voilà, en demi-teinte, moi je trouve, de cette équipe de France. Maintenant, voilà, on attendait Valérie Gauvin. Je disais tout à l'heure justement que je l'attendais dans cette situation un peu d'au jeu. Elle a réussi à décaler côté droit. Elle se retrouve dans la surface pour finir. C'est bien pour la France, mais dans le contenu, ça doit être mieux.
Merci Laure, merci Pierre-Yves. La suite de ce match sera dans l'after tout à l'heure à 22h. On revient au basket, l'ASVEL qui joue un match très important d'Eurocup, c'est mardi contre Andorre. Alors on vous parlait un petit peu de cette affaire Alexis Ingensin. Est-ce que ça peut plomber tout simplement l'équipe de l'ASVEL qui est pas forcément au mieux en 2019?
Plomber, je sais pas. Cette année, ils ont gagné tellement de matchs en étant jamais au complet. L'ASVEL, je suis pas sûr que ça soit capital dans la victoire de demain. Alors peut-être que
c'est du plus long sur du plus long terme.
Plus long terme, oui. Si remplace pas Alexis Ingensin sur un match, ils peuvent le combler. Si remplace pas Alexis Ingensin sur le long terme, oui, ça va être difficile. Maintenant, est-ce que ça a impacté des joueurs? On sait que Charcaoui était quand même assez proche d'Alexis Ingensin. D'ailleurs, après la rencontre à nos confrères du Progrès, il a même déclaré Alexis, c'est mon gars. Il faut que j'aille discuter avec lui pour essayer d'arranger ça. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le moral des joueurs? Je crois pas. Ce sont des professionnels animés que d'une chose, c'est la victoire pour aller le plus loin possible. En Eurocup, mais match pas facile demain. Match pas facile. Andorre, ça fait pas rêver les gens qui nous écoutent, les gens qui regardent peut-être le basket.
Mais c'est juste pour préciser qu'il y a le meneur de l'équipe de France, en fait, qui joue Andorre, c'est Andorre Albici.
C'est une équipe qui fait des très bons résultats dans le championnat espagnol, qui est un championnat de bon niveau, hein, Fred.
Ils font des coups.
Très bon niveau.
La meilleure Liga du monde.
La deuxième meilleure Ligue du monde.
Ils sont dixième, donc ils font des coups. Mais ils manquent un petit peu de régularité. Mais ils ont tapé des gros.
Contre Madrid, hein, quand même,
ils ont tapé des gros chez eux. Chez eux, ils sont invaincus.
C'est le match retour qui va être très compliqué, parce qu'à domicile, ils sont très, très forts.
On rappelle la formule mardi 20h45 à ASVEL Andorre à suivre sur RMC Sport 2. Match 2 vendredi à Andorre et ensuite match d'appui. Mercredi,
un premier match comme ça, c'est très compliqué à la maison. C'est la pression est sur l'ASVEL clairement, parce que s'ils perdent, ils peuvent être éliminés directement au match suivant à Andorre.
Surtout qu'il y a besoin de faire quand même quelque chose. Alors on sait qu'il y aura l'Euroleague, mais l'ASVEL a quand même besoin de faire au moins un dernier carré dans cette Eurocup. Oui,
quand vous êtes en quart de finale de l'Eurocup, je suis désolé, quand vous avez fait un top 16 comme ça, vous avez fini premier de votre groupe, vous avez tapé le Lokomotiv Kuban deux fois, vous avez des ambitions quand même de demi-finale, voire de finale. Hein.
Sur quoi ça peut être la clé, ce match, l'ASVEL?
La défense. Il faut contenir contenir l'attaque de Andorre, qui est une des plus belles de l'Eurocup. À l'extérieur, ils ont beaucoup de mal. Ils ont gagné 3 matchs, je crois, sur 11 depuis le début de la saison. Et on sait que l'ASVEL est une des meilleures défenses de la compétition. Et cette équipe d'Andorre, il n'y a pas de star. C'est une équipe cosmopolite. Il y a, je crois, 10 nationalités. Chaque soir, il y a un mec qui peut mettre dedans. Andrew est très bon. Il va falloir contenir ça. J'ai hâte de voir le duel Kalnietis-Albici.
David, faut se méfier vraiment de cette équipe d'Andorre, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, parce que allez, on connaît Andorre Albici, on connaît moins les autres joueurs.
On la connaît parce que pour le coup, elle était dans la poule de Monaco, donc on les a déjà vus cette saison. Je pense que l'équipe qui gagne demain gagnera la série. Je suis pas sûr, connaissant justement les soucis d'effectifs de l'ASVEL, que si l'ASVEL trébuche à la maison, qu'il soit capable d'aller gagner là-bas. Stephen disait qu'ils étaient invaincus. Et en revanche, si l'ASVEL commence bien cette série, derrière c'est quand même assez tranquille. On ne peut que faire un coup à l'extérieur, et si c'est pas le cas, on sait qu'on a un dernier match à la maison.
Mais ça reste une équipe espagnole qui court beaucoup, qui pousse le ballon qui joue à
son valeur.
Je rejoins Stephen, la défense va être vraiment capitale, le repli défensif.
Ils ont un petit Dylan Ennis qui a du ballon, ça va être compliqué. Ils ont John Chourna qui a joué à Strasbourg aussi avec le tir de
le
tir de l'éléphant qui cloche. Ils ont des bons petits joueurs de basket, pas très connus, pas de stars, mais attention.
Andrew Albici doit avoir une envie folle de jouer, parce que il a participé aux campagnes de qualification de l'équipe de France. Il peut postuler pour une place dans les 12 à la Coupe du Monde l'été prochain.
Bon, on espère qu'il n'ait pas très envie de jouer. Hein.
Non, mais je veux dire, il y a un climat qui fait.
Il joue peut-être contre son futur club.
Voilà, c'est ça. En plus,
il y a un climat qui fait qu'il a sûrement envie encore plus de sublimer. Voilà, c'est ça que
je veux
dire. Bien
sûr, quand un joueur joue à l'étranger, qu'il a la chance d'affronter une grosse équipe comme l'ASVEL, une équipe de son pays, forcément, il a envie de se montrer.
Et les joueurs qu'il connaît bien, parce que pendant le stage de l'équipe de France avec Amine Noua, ils n'ont pas arrêté de se chambrer en permanence par rapport à cette confrontation.
Il y a une pression évidemment sur les épaules de l'ASVEL. On le disait, Stephen, David, Fred, Cyril, faut gagner. Il y a un enjeu, au-delà de l'enjeu évidemment sportif, parce qu'ils ont besoin de briller, il y a un enjeu stratégique pour, là je parle aussi au niveau des présidents à Charlotte, Tony Parker et Nicolas Batum.
Ouais, disons que ça légitime le projet. Ça veut dire que si on arrive l'année d'après en Euroleague et que l'année d'avant on a fait à minima une demi-finale.
C'est mieux que considérer que c'est une offrande de l'Euroleague que d'avoir cette place. Là on se dit voilà, c'est une équipe qui a mérité, qui a bien travaillé, qui a fait une bonne saison d'Eurocoupe.
Voilà, ça fait moins genre le patron il a des relations et
en Euroleague. Ça va mériter sur le terrain.
Ce qui serait mieux encore, c'est que l'Asvel gagne cette Eurocup, comme ça ils l'ont gagné sportivement.
Voilà, et comme ça ils jouent deux fois.
Voilà. Sachant qu'il y a le ticket quand on gagne l'Eurocup, il y a le ticket direct pour l'Euroleague. L'Asvel contre Andorre, mardi 20h45. Sera au commentaire les gars.
Ouais, RMC Sport 4.
C'est RMC Sport 4.
RMC Sport 4.
Et 20h30. Bah oui, il y a de la Ligue.
20h30, il y a la Champions League.
Il y a la Champions League évidemment. RMC Sport 4, donc soyez au rendez-vous. Il y a de la JP Elite. Tiens, j'ai oublié de vous préciser que maintenant le match du lundi est disponible en clair sur le site de RMC Sport, sur le site de la LNB. Et Monaco a créé l'écart 60-47. Deux minutes encore à jouer dans le troisième quart-temps. C'est pas mal. 63-47 désormais, ça déroule hein, pour la première de Sacha Obradovic, le coach.
Monaco est monté en pression défensive. Ils ont fait des interceptions à l'image de Dibos tout à l'heure. Puis Cholet, il faut tenir 40 minutes le rythme. Cholet n'était pas une grande équipe à l'extérieur. Petite équipe de JP Elite, et à l'extérieur, c'est
petite équipe. Forcément. Ouais.
Merci messieurs, un petit tour la Ligue 2 puisque ça a repris Le Havre-Metz, Christophe Lécuyer.
C'est reparti depuis 10 minutes en seconde période, en effet toujours ce score d'un but à 0 pour les Havrais qui pour l'instant réaliseraient la belle opération de cette soirée puisqu'ils mènent face au leader messin depuis la 22e, et ce but signé Zinedine Ferrat est un nouveau coup dur là pour les Messins avec la sortie de leur milieu de terrain à Maïga qui s'est fait mal au dos tout à l'heure, la rentrée de Marvin Gakpa. 55 minutes, 1-0 pour Le Havre.
Merci Christophe, et on rappelle la France contre l'Uruguay, match amical de l'équipe de France féminine, c'est la mi-temps, 3-0 pour les Bleus, la suite de cette rencontre. Dans l'after qui démarre dans un instant, Gilbert Bribois, Pierre Ducrot, Jonathan Macardy. Je vous remercie messieurs pour ce numéro de Buzzer Time.
Merci
pensez pour Pierrot.
Merci à toi Nono.
Merci, une épreuve. Pensez pour Pierrot. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine.
RMC Buzzer Time.